RFI, grand reportage.
Mehdi Medeb.
La France est le deuxième domaine maritime au monde. Elle compte pas moins de 4000 km de côte et une soixantaine de ports, dont Marseille, Dunkerque ou encore Le Havre pour les plus importants. Pour autant, le pays n'a pas un trafic portuaire à la hauteur de sa façade maritime et de sa place en Europe. Aucun port français ne figure parmi les 50 premiers mondiaux. Même en Europe, la France est vivement concurrencée sur les mers. Le port du Havre face à la concurrence européenne, c'est un grand reportage d'Altine Lazare.
La question très simple.
Donc là, il part au mouillage ?
Il part au mouillage.
Oui, monsieur, on a terminé notre problème. Là, on va vous demander la sortie, s'il vous plaît.
Il y a 18,50 mètres de tirant, donc je pense que ça sera trop.
Nous sommes dans la tour de la capitainerie en compagnie de Nicolas Chervy, le commandant du port du Havre. C'est depuis cette vigie de 45 mètres de haut que le premier contact entre un bateau et le port est établi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la capitainerie gère 30 navires par jour, assurant ainsi la fluidité du trafic portuaire. Capable d'accueillir les plus grands navires du monde, le port normand permet un temps d'amarrage record en Europe.
Le temps nécessaire au port du Havre est de l'ordre de 2 heures, ce qui est extrêmement rapide comparé aux 6 heures qu'il faut sur le port d'Anvers et 3 à 4 heures sur Rotterdam et 6 à 8 heures sur le port d'Hambourg. Il n'y aurait pas de croissance s'il n'y avait pas derrière la capacité à absorber cette croissance et la capitainerie doit montrer en tout temps, avec les services portuaires que sont le pilotage, le remorquage et l'amanage, la capacité d'absorber ce trafic, quelles que soient les conditions. Il n'est hors de question pour nous et de faire attendre un navire parce qu'on ne saurait pas le traiter. Et on n'a absolument pas le droit de faire attendre un navire sans avoir justifié le pourquoi du comment. Donc il faut être capable d'absorber tout le trafic dès qu'il se présente et quand il se présente, quelles que soient les conditions météorologiques et quel que soit le moment du jour ou de la nuit.
Grâce à l'inauguration il y a 11 ans d'un long terminal appelé Port 2000, le Havre est le seul port en Europe avec celui de Rotterdam capable d'accueillir les plus grands conteneurs de la planète.
Par exemple, ici, nous avons un porte-conteneurs de capacité de 15 000 conteneurs de la compagnie Maersk et qui est là depuis ce matin. Il vient de Felixstowe en Angleterre, c'est-à-dire qu'il est en train de charger son bateau en Europe et il va partir ce soir à 22h vers l'Asie.
Quel que soit le temps, les portiques chargent et déchargent les navires. Sur le quai, Baptiste Morand veille. Il est le directeur général adjoint du port. Pour lui, ce terminal est un élément clé de la croissance.
Absolument, c'est essentiel pour le port du Havre parce que tout simplement, ça permet un accès à tous les navires, quels qu'ils soient, en un port en haute mer et qui permet donc d'avoir accès à non seulement l'interland naturel du port du Havre qui est l'île de France, mais aussi à toute l'Europe, puisque à partir du port du Havre, on peut desservir le cœur de l'Europe avec différents moyens de transport, qu'ils soient fluviaux, ferroviaires ou routiers. Le port du Havre, il a une infrastructure exceptionnelle. Par contre, géographiquement, il est un peu excentré. Sa qualité, c'est qu'il est le premier port touché à l'import, le dernier port à l'export. C'est-à-dire, quand vous arrivez d'Asie ou d'Amérique avec un porte-conteneur, le premier port que vous rencontrez capable de traiter, c'est le port du Havre. Ça, c'est un atout. En revanche, quand vous déchargez au port du Havre, vous êtes encore loin du cœur de l'Europe. Vous êtes à environ 1000 km de Munich, il faut faire encore 1000 km pour aller jusqu'à Varsovie. Et ce qu'il faut pour le port du Havre, pour être compétitif et plus compétitif surtout par rapport au port d'Anvers, Rotterdam, Hambourg, qui eux sont situés déjà au cœur de l'Europe, c'est d'avoir des infrastructures performantes qui nous permettent d'accéder au cœur de l'Europe. C'est le ferroviaire, c'est le fluvial et c'est le développement de ces modes qu'on dit massifiés et qui permettent du coup d'aller plus vite, plus loin et de gagner des parts de marché. C'est ce qu'on fait en ce moment au port du Havre depuis plusieurs années. C'est ce que nous avons fait en 2017 avec une croissance de plus de 15% sur le marché des conteneurs. On est un outsider encore sur le domaine du transport maritime, mais on a des parts de marché à gagner et on va les gagner.
Autre transformation majeure, la mise en service en 2015 du terminal multimodal situé à l'extrémité du port. C'est une zone de transit où se termine un canal relié à la Seine et une voie ferrée reliée au réseau français. Des péniches et des trains peuvent ainsi déposer leurs conteneurs qui sont ensuite acheminés vers les grands terminaux maritimes par un train spécifique. Christophe Régnier est directeur de la société LHTE qui exploite le site.
Sur ce terminal, l'objectif c'est de regrouper
les opérateurs ferroviaires et les opérateurs fluviaux qui peuvent massifier leur volume sur ce point de départ, ce point de chute, avant ou après la connexion avec les navires maritimes. Pour eux, c'est une optimisation de leurs moyens et donc ça peut leur permettre également de développer leur trafic. Vous avez là à gauche un train qui est chargé de conteneurs qui partira ce soir à 19h30 à destination de Lyon. Et nous avons sur l'autre voie, un peu au-dessus, un train qui sera à destination de l'Allemagne, Ludwigshafen, pour des activités de trafic continental.
Après quelques difficultés au début de son activité, le terminal multimodal a trouvé sa vitesse de croisière. Il est devenu un élément essentiel au développement du trafic du port.
Nous avons un volume qui a progressé régulièrement depuis 2015. Entre 2016 et 2017, nous avons pu doubler notre volume d'activité. Et nous avons pour ambition de passer une augmentation de 15 à 20% en 2018 et également en 2019.
Grand comme Paris, premier port au monde pour le transport des spiritueux, le Havre a traité environ 2 900 000 conteneurs en 2017, soit 14% de plus que l'année précédente. C'est la meilleure croissance en termes de trafic en Europe. Hervé Martel est le directeur général du port.
Pendant plusieurs décennies, le port du Havre a perdu des parts de marché par rapport à ses concurrents du Nord. Ça, c'est tout à fait exact. Mais depuis 5 ans, le port du Havre a regagné des parts de marché. Il a regagné un point de part de marché. On est au-delà de, on est à peu près à 6,7% de part de marché. On était à un point de moins il y a 5 ans. Et pourquoi le port du Havre a repris de la compétitivité? Parce que c'est un port en eau profonde qui peut accueillir les plus grands navires du monde. Deuxième élément, le port du Havre a beaucoup développé depuis quelques années des activités logistiques. C'est un sujet sur lequel nous étions plutôt en retard. Nous avons une formidable progression des entrepôts qui se construisent sur notre port et qui génèrent de l'activité.
Malgré ces bons résultats, le port du Havre est loin de son concurrent direct, le port d'Anvers en Belgique. Si en 1980, le Havre et Anvers avaient une activité comparable, aujourd'hui, le port belge a un trafic 3 fois plus important que le port français. Anvers a traité l'an dernier 10 400 000 conteneurs, dont d'ailleurs beaucoup en provenance ou en direction de la France. On estime qu'un produit sur 2 qui entre dans l'Hexagone est passé par Anvers. Afin de comprendre cet écart, rendons-nous au port d'Anvers, le deuxième en Europe après celui de Rotterdam aux Pays-Bas. C'est le jour de la présentation annuelle de son bilan d'activité et pour cela, la direction du port a mis les grands moyens. Elle a invité des journalistes étrangers pour une visite du nouveau siège de l'administration portuaire signé par l'architecte mondialement connu Zaha Hadid, un énorme édifice vitré en forme de diamant situé au-dessus d'une ancienne caserne des pompiers. Ce mélange du passé et du futur se visite. Du dernier étage, à 50 mètres du sol, on voit les quais à perte de vue.
En Suisse. Et la batterie, donc la navigation intérieure, c'est pour nous c'est très important parce qu'on croit vraiment fortement dans tout ce qui est intermodalité.
Dans le hall, sur le sol, une grande carte nous montre la vue aérienne du port. Anne Damen, du service marketing de l'administration, explique les circuits fluviaux.
Ici, c'est le terrain de BASF. C'est une grande entreprise chimique.
Le port d'Anvers bénéficie d'une position géographique avantageuse. Il est situé sur l'estuaire du fleuve Escaut, à 80 km à l'intérieur des terres et au cœur de la ville belge. Autre avantage, le port est desservi par plusieurs canaux et 3 réseaux ferroviaires. Les marchandises sont donc acheminées vers l'arrière-pays européen de manière rapide, compétitive et écologique. 37% par péniche contre 10% pour le site du Havre. Et cela fait toute la différence, car un convoi fluvial équivaut à 250 camions ou 5 trains, sans compter qu'il pollue 4 fois moins que le transport routier et fluidifie le trafic. Le port belge peut aussi desservir rapidement la France, la Hollande et surtout la puissante industrie allemande. Après la visite du siège, une promenade en bateau est organisée dans les bassins du port. Malgré la pluie et le vent, les portiques déchargent inlassablement les navires avant de charger dans la foulée les barges fluviales. Un déjeuner est servi à bord accompagné de musique jazz. Le directeur du port, Jacques Van der Meren, présente en anglais les chiffres de l'activité portuaire.
We will start the presentation. We will have a short overview on the figures 2017 before.
Pour la cinquième année consécutive, le port affiche une croissance solide, 4,4% l'an dernier. Un autre avantage, le port d'Anvers abrite une industrie importante dans des sites pétrochimiques.
La croissance à Anvers est quelque chose qui a commencé déjà dans les années 80. Et qu'il y ait une crise ou pas, qu'il y ait des problèmes de globalisation ou de protectionnisme, le port d'Anvers parvient toujours à trouver des solutions et à continuer à croître. Et qui est lié au fait qu'on a une industrie importante dans le port qui attire naturellement le volume. Il faut des matières premières qui entrent dans le port et puis qui sont quelque part utilisées pour en faire autre chose, produits qui doivent à nouveau quitter le port. Donc automatiquement, quand on a une industrie importante dans le port et depuis plusieurs décennies qui continue à investir, et je prends l'exemple de Total qui a investi sur les 5 dernières années 1,5 milliard d'euros à Anvers. Donc c'est bien de les avoir et de les avoir depuis des décennies, mais d'avoir ce genre d'industrie qui continue à investir et qui continue à vouloir avoir leurs outils les plus performants dans tout le portefeuille. Ce qui va naturellement avoir comme conséquence qu'il faut avoir des matières premières qui vont entrer dans le port et qu'il va y avoir des produits qui vont en sortir. Une fois qu'on a ça, tout ce réseau d'industries et de centres européens de distribution à proximité ou bien dans le port ou bien à proximité du port renforce naturellement l'activité mais aussi les volumes qui fatalement continuent à rentrer.
De plus, Anvers a l'avantage de se situer à proximité de zones qui concentrent la majorité de la consommation européenne.
Nous sommes bien localisés ici à Anvers. On a 60% de la consommation européenne qui est dans un rayon de 500 km du port d'Anvers. Et nous avons les plus grands centres de production qui sont dans ce même champ de distance. Et ceci est quelque chose qui ne va pas changer, donc ça nous permet d'être optimistes pour l'avenir.
À la différence du Havre, qui n'est pas une ville commerciale, Anvers est historiquement connu comme un lieu d'échange de tout type de marchandises. De manière atypique, elle est même devenue la capitale mondiale du diamant, alors qu'aucune mine n'existe en Belgique. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Guy Van Donselaar, avocat maritime à Anvers depuis 40 ans. Il m'attend dans le bar d'Den Engel, en français Longe, un des cafés les plus typiques de la ville, situé à côté de la mairie.
Le commerce du diamant représente 8% du produit national brut de la Belgique, ce que peu de gens savent, mais donc effectivement le diamant est très important pour la ville. Au départ, c'était essentiellement aux mains de la communauté juive, mais actuellement il faut savoir que ce sont les Indiens qui sont les plus grands diamantaires et qui ont en main, je crois, près de 80% du marché diamantaire à Anvers. Ouais.
La ville d'Anvers, ce n'est pas juste une ville portuaire, ce n'est pas juste la ville des diamants, mais il y a d'autres activités comme la mode.
La mode s'est développée à Anvers depuis, je dirais, une trentaine d'années. Sont sortis à peu près à la même époque de l'Académie de la mode à Anvers 5 jeunes très ambitieux qui ont réussi très très fort dans le domaine de la mode. Il y avait Dries van Houten, Walter van Beirendonck, Barranquillo, enfin on les appelle les 5 d'Anvers. Qui ont réussi au-delà de toute espérance et qui ont créé vraiment une dynamique, une nouvelle dynamique concernant la mode à Anvers. L'Académie de la mode à Anvers marche très fort. Depuis lors, on a ouvert un musée de la mode à Anvers qui est magnifique. Et voilà, donc c'est une activité qui met Anvers sur l'échelle mondiale et qui est très importante.
Dans la ville d'Anvers, quand je l'ai connue, elle était danseuse nue dans un bar à marins.
Anvers, une ville culturelle. Pierre Fruitier-Roth, directeur de l'Alliance française, y vit depuis 4 ans.
C'est une très grande ville culturelle, c'est la ville de Rubens, qui avait cette particularité d'être peintre, diplomate et espion à ses heures perdues. C'est la ville de Van Dyck aussi, également, de l'école flamande en général. Et pour une ville d'à peu près 1 million d'habitants, c'est 30 musées, Le musée Rubens, bien sûr, le musée de la peinture flamande, le musée de la photographie, qui est très grand, très important, le MAS, qui est le musée de l'histoire de la ville d'Anvers, et bien sûr les collections du musée royal des Beaux-Arts de Belgique, présentes à Anvers également.
Retour en France, aux assises de l'économie de la mer qui se sont déroulées au Havre en novembre dernier. Lors du discours d'ouverture, le Premier ministre Édouard Philippe et ancien maire de la ville n'avaient pas mâché ses mots.
On le répète depuis tellement longtemps qu'on s'est d'ailleurs un peu habitué à l'idée. Comme si c'était une chose à dénoncer, certes, mais presque acquise. Je ne m'habitue pas, pour ma part, à l'idée que Anvers puisse être un des ports, et certains disent le port, le plus important s'agissant du trafic de marchandises pour la France.
Le Premier ministre dévoile les pistes d'une nouvelle politique maritime et lance une réflexion sur la gouvernance des ports. Un discours dont se félicite Christian Bûcher, directeur du Centre de la mer à l'Institut catholique de Paris. Il regrette pourtant l'absence de précision sur les moyens financiers investis.
Il y a, de manière affirmée, et je m'en réjouis, la volonté qu'il y ait une politique maritime ambitieuse, pour citer les termes même du Premier ministre. Maintenant, il faut voir comment ça va se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de sous, quelques milliards de dollars, de grands travaux, une politique de désenclavement, que j'appellerais comme ça, de désenclavement du territoire, avec d'autoroutes, des voies fluviales, des voies ferroviaires supplémentaires. Vous savez, moi qui suis historien, il y avait plus de voies navigables à l'époque de Louis XIV qu'aujourd'hui. Donc on voit le retard à l'allumage. Nos ports sont des cul-de-sac. Ils sont formidablement reliés à la mer. Le Havre, je dirais, permet de gagner même un jour par rapport à la décharge au niveau d'Anvers, Hambourg et Rotterdam. Sauf que une fois que le conteneur arrive là, au Havre, il a l'air malin. On n'a pas un réseau autoroutier, un réseau ferroviaire, un réseau fluvial suffisamment développé. Tant que vous n'aurez pas, puisque nous sommes au Havre, une ligne TGV, Paris-Normandie, pour dégager les lignes ferroviaires existantes au profit du fret. Tant que vous ne pousserez pas davantage le fret ferroviaire entre Lyon et Marseille, vous ne pourrez pas désenclaver le pays, nous ne serons pas compétitifs. Deux conteneurs sur trois qui rentrent ou qui partent de France, qui passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Et pire encore, si vous prenez la région PACA, c'est un conteneur sur deux qui rentre ou qui sort de la région PACA, qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Vous imaginez les conséquences écologiques. Et surtout, ça plombe complètement la compétitivité française parce que tout ce que nous achetons doit passer par l'Alsace-Lorraine qui est en fait la région la mieux reliée à la maritimité. C'est un paradoxe français. Il faut une politique d'aménagement du territoire ou plutôt de désenclavement du territoire. C'est ça, en premier lieu, une politique maritime.
Aujourd'hui, tout pays qui se tourne vers la mer connaît la vague du succès.
Se tourner vers la mer, c'est se tourner vers une logique des flux. C'est déjà ce qu'avait écrit un formidable personnage en 1595. Celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande le monde lui-même. Et on voit aujourd'hui que le président Xi Jinping, le président chinois, c'est exactement dans ce mood-là qu'il se met. Il dit clairement, à l'horizon 2030-2035, la Chine sera l'épicentre des flux commerciaux mondiaux et nous réussirons, nous Chinois, à obtenir ce que les États-Unis n'auront jamais pu obtenir par des fins militaires.
À l'heure où le transport maritime représente 80% des échanges mondiaux de marchandises, les grands ports sont devenus les infrastructures centrales de la mondialisation. Il est donc impératif pour la France d'investir massivement maintenant pour éviter de faire naufrage face à de redoutables concurrents européens.
Le Havre sur le port, c'est à l'heure du train de marchandises.
Le port du Havre face à la concurrence européenne. Grand reportage signé Altine Lazage, réalisation Pierre Chaffin.
Il faut du cœur pour gagner sa croûte. Le Havre sur le port, elle se lève ici. Les jolies brunes, on a froid, mais le froid s'évapore. Ça fait du soleil. Là du sommeil est encore. Je repense à nos baisers nocturnes. Le Havre sur le port. Le Havre sur le port.